Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le Parlement européen a lancé aujourd'hui une procédure et donc ouvert la voie à des sanctions contre la Hongrie pour violation des valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est un cran supplémentaire dans le conflit entre l'Union et les populistes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini ne cachent pas leur volonté de miner le fonctionnement de l'Union et si possible de la paralyser en cette année d'élections européennes. L'Américain Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, veut fédérer tous ces mouvements pour mettre l'Europe à terre. Les populistes peuvent-ils avoir la peau de la construction européenne ? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités sont avec nous en studio. Béatrice Giblin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8, et directrice de la revue Hérodote. Et vous êtes l'auteur du livre « L'extrême droite en Europe », c'est aux éditions La Découverte, et c'est paru en 2014. Et Guillaume Clossat, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du centre de réflexion Europa Nova et président du mouvement citoyen européen Civico. C'est à la fin mai 2019 qu'auront lieu les élections européennes, et de chaque côté, eurosceptiques comme pro-européens, on présente l'enjeu comme fondamental. Les questions nationales semblent venir un peu au second plan, contrairement aux autres années. C'est la première fois qu'il y a un enjeu politique commun à tout le continent. Béatrice Giblin, votre connaissance ?
À ce point-là, dans une situation de tension, oui, je le crois. Quand même, les élections européennes ont été jusqu'alors, dans beaucoup de pays, en tout cas dans le nôtre, le lot de consolation de ceux qui étaient plus députés.
Façon de se compter, peut-être.
C'était aussi une façon de se compter. On avait quand même aussi un nombre de listes tout à fait dans une diversité étonnante, c'est-à-dire un peu des élections des fouloirs, comme elles étaient à la proportionnelle, ont tenté sa chance, d'une certaine façon. De l'extrême gauche à chasse, pêche, nature et tradition. Enfin, on avait quand même un éventail tout à fait étonnant. Vous me direz, cette fois-ci, je pense qu'à gauche, on en est déjà à 8 listes. Donc, on peut voir que la danse continue. Il y a peut-être le feu au lac, mais il n'y a pas de raison de ne pas continuer à s'amuser. Mais c'est vrai, je pense, cette année. Et en plus, on change de mode de scrutin. Puisque c'est
on revient à la liste nationale.
Ce qui change quand même aussi les choses. Elles avaient été faites en liste régionale, là encore pour des raisons, de résultats et de sauver la mise aux deux grands partis, d'une certaine façon. Macron remet la liste nationale.
Guillaume Clossat, est-ce que cette européanisation des enjeux vous surprend ?
D'abord, il y avait une première étape quand même aux élections de 2014 avec les Spitzenkandidaten, les candidats à la présidence de la Commission européenne. Mmh. J'avais été au premier plan comme directeur de l'Union européenne de radio-télévision. On a organisé ce débat qui a permis des débats un peu transnationaux et le fait que le président de la Commission soit le résultat des urnes. Et ça, c'était une première étape politique qui était importante parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les trois commissions précédentes n'étaient pas du tout considérées comme légitimes. Et cette commission, peut-être à cause de ça, je pense à cause de ça, n'a pas eu de problème de légitimité. Après, il y a plein de critiques qu'on peut émettre.
Jusqu'à ces récentes semaines, on va dire, il y avait quelques affaires.
Mais les affaires, il y en a toujours eu. Et ça, c'est pas. Et je pense que le sujet, Béatrice l'a dit, maintenant, c'est que l'Europe, c'est sérieux et que le sujet, c'est de compter ceux qui veulent avancer, qu'ils soient sociaux-démocrates, libéraux, autre chose. Et le Parlement européen est une instance importante.
Il y a quelque
et donc
chose
dans les listes, pardon, mais juste pour parce que vous avez parlé des listes, Béatrice, à juste titre, il faut mettre des gens qui peuvent être vraiment influents
et crédibles
et changer la donne et qui savent travailler de manière horizontale et avec tout le monde.
Béatrice Giblin, vous vouliez rebondir.
Oui, parce que je pense que en ce moment l'heure est quand même sérieuse et l'Europe a toujours avancé sous l'idée de la menace. Et le fait que certains puissent commencer à se dire « mais c'est vrai, quoi, on est en train de prendre des risques là, d'une certaine façon, c'est dangereux ce qui se passe ». Le Brexit, où les choses se passent pas quand même très très bien, c'est quand même intéressant, je disais dans Le Monde d'hier soir, que les syndicats, l'association des syndicats britanniques sont majoritaires pour redemander sans doute un deuxième référendum.
On est dans un contexte très particulier.
Exactement.
Et moi, pour la première fois, en fait, je sens, parce que je n'avais jamais senti ça depuis que je suis dans les sujets européens, je sens qu'il y a une conscience que l'Europe peut s'effondrer du jour au lendemain partout.
Voilà.
Et le vrai sujet, c'est que je repense, parce que ce matin, Juncker a parlé de 1913, et il y a un très beau livre qui s'appelle Le Monde d'hier,
où Stefan Zweig.
Exactement. Où Stefan Zweig consacre un chapitre à 1913 et il dit, on voyait tout ce que l'Europe pouvait s'effondrer, que quelque chose arrivait, les syndicalistes, les intellectuels, les artistes, les politiques, Jean Jaurès, et personne n'a rien fait parce que nous n'avons pas su nous coordonner. Et je crois qu'on est exactement aujourd'hui dans la même situation.
Alors les populistes de droite, pour ne pas les nommer, ils ne sont pas les seuls. Le Hongrois, Viktor Orban, l'Italien, Matteo Salvini en tête, ne cachent pas leur volonté de mettre par terre le fonctionnement de l'Union. Et c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un risque réel, Béatrice Gibert? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire ça?
Attendez. C'est le fonctionnement et c'est pas de mettre à terre l'Union européenne. Il faut être très
nuancé là-dessus. Un peu rigoureux, hein, absolument.
Parce que Orban n'a pas envie qu'il n'y ait plus d'Europe et Salvini non plus. Il y a des positions, il y a des postures. De là à mettre tout par terre, moi, très sincèrement, je n'y crois pas. Et en plus, Orban et Salvini ne sont pas en parfaite entente sur tous les sujets. On va prendre simplement celui de l'immigration, qui est quand même un sujet central. Pour Salvini, il faut que l'Europe accepte, que les autres membres de l'Union européenne acceptent d'accueillir des migrants.
Alors qu'Orban n'en veut pas du tout.
Il n'en veut pas du tout, néanmoins... Il avait accepté, je crois qu'il devait en prendre 1500 au moment où on devait faire la répartition. Il a crié Ubi et Orbi, et je dirais pas Ubi et Orban parce que ce sera un mauvais jeu de mots, que je fais quand même, et il les a pris de façon très discrète, en fait.
Guillaume Clossat, comment vous le voyez? Est-ce qu'ils ont suffisamment de troupes pour pouvoir faire ça, le problème,
en fait, c'est pas tant les troupes, c'est que les postures, la montée des populistes de droite et de gauche, d'ailleurs, radicalise en fait les positions des partis centristes. Et ça crée un risque de blocage de l'Union européenne. Et aussi du fait qu'on sorte de nos valeurs, parce qu'on le voit, par exemple, au Danemark, aux Pays-Bas, dans d'autres pays qui étaient très, très tolérants, où finalement, les positions qui ont été prises par rapport aux migrants étaient des positions impensables
il y a quelques années.
5 ans ou 10 ans plus tôt. Et c'est ça le risque. C'est de faire que finalement, l'Europe se salvinise ou s'orbanise. Et ça veut dire que les Européens perdraient leur ADN. Et puis deuxièmement, la machine européenne risque de s'enrayer parce qu'elle a besoin d'une dynamique qui est organisée vers le progrès et le futur. Et ces partis sont plutôt organisés vers le repli et le conservatisme.
Est-ce que tous les pays sont touchés, Béatrice Gibelin? Parce qu'en préparant cette émission, je me suis aperçu qu'en Espagne ou au Portugal, par exemple, il y avait... Pas encore ou pas du tout, c'est bon, tendance.
D'abord, ils ont connu, on va dire, des régimes non démocratiques dans un passé.
Ils ont fait l'expérience de ce genre de choses jusqu'au milieu des années
70. Il y a eu Salazar, la révolution des œillets, c'est 74. Et puis, il y a eu la mort de Franco, 76. Et puis, il y a eu toute la transformation. Donc, dans les souvenirs, et puis il y a quand même une guerre civile en Espagne qui a quand même laissé des traces. Je veux dire, il y a des gens qui ont connu cette guerre civile absolument atroce et qui vivent encore aujourd'hui. Donc, il y a eu un débat qui est important. Deuxième élément, dans le cadre de l'Espagne, on a eu la question des nationalismes régionaux, comme je les ai appelés il y a longtemps, qui a servi de point de fixation, si vous voulez, sur une opposition au gouvernement central. Néanmoins, est apparu en Catalogne, il y a un peu une petite dizaine d'années, un mouvement, Plataforma, qui était un mouvement d'extrême droite très classique. Avec les Arabes dehors, ayant percé aux endroits où il y avait une population immigrée maghrébine extrêmement importante et sur un discours très anti-musulman. Donc je ne dis pas que ça ne puisse pas venir, mais c'est vrai que pour le moment, si ils ont eu d'autres chats à fouetter, je vais peut-être le dire de façon un peu violente, mais si là, Sanchez, le nouveau président socialiste d'Espagne, qui est quand même sur une situation extrêmement délicate puisqu'il n'a pas de majorité et qui a accueilli l'Aquarius, on le sait, mais depuis un certain nombre d'autres arrivants de bateaux, on a aussitôt un changement des routes et ça va moins vers l'Italie et ça se dirige plus vers l'Espagne. Moi, je sais que dans le sud de l'Espagne, du côté de l'Andalousie, ça ne sera pas difficile à ce que ça bascule sur un discours populiste très anti-immigré.
Guillaume Closa, est-ce que le fait que ces mouvements ne soient pas implantés partout, dans tous les pays européens, ce n'est pas une chance pour la construction européenne de limiter la vague ?
Oui, il faut rajouter l'Irlande, par exemple. Hein. Enfin, il y a d'autres pays européens. Moi, je pense que le débat n'est pas aussi simple que de dire il y a ceux qui veulent le repli, le nationalisme, et c'est le débat que veut dicter à Macron, notamment Orban, et ceux qui sont contre. Et je crois que la raison est de dire voilà, il y a des problèmes, et le sujet c'est comment on affronte ces problèmes et quelles sont les positions de droite, de gauche, du centre pour le faire. Parce que la démocratie, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire, néanmoins, que tous les pro-démocrates ne disent pas ou ne s'accordent pas sur une charte de principes fondamentaux qui est pour nous la démocratie en Europe, c'est le respect du pluralisme, c'est des élections complètement libres, c'est l'égalité homme-femme, et cette plateforme pro-démocrate que je vais essayer de lancer avec une centaine de personnalités. On a fait un appel dans le JDD pour un congrès avec Juppé, Verhofstadt, Cohn-Bendit, Ayrault, etc. en France et partout en Europe. C'est de fédérer ceux qui croient que la démocratie est l'ADN de l'Europe et que dans ce cadre-là, on peut avoir des positions différentes pour répondre à de vrais sujets, parce qu'il faut des solutions sur l'immigration, il faut voir comment mieux coordonner la nation et l'Union européenne, il faut protéger nos valeurs, mais pas des valeurs de repli, des valeurs d'avenir, comme l'Europe a été pensée.
Béatrice Gibelin, ce duel qui se met en place, Orban-Salvini contre Macron, qui d'ailleurs est largement accepté par Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas un jeu dangereux de la part des pro-européens? C'est un peu binaire, non?
Oui, c'est sûr que c'est un peu binaire, mais vous avez le clivage à un moment donné, c'est utile. Hein, cliver, ça permet d'abord de simplifier. Hein, c'est 0 ou 1, c'est toujours plus simple que quand vous êtes dans la nuance, et surtout quand vous marchez sur une campagne électorale. Pour ma part, moi je ne suis pas sûre que Macron puisse prendre la tête. On va encore trouver que la France est arrogante et qu'elle veut donner des leçons à tout le monde, etc.
Ça c'est un débat que je voudrais faire un jour.
Bon, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire dessus. Et qu'il se mette comme ça en tête. Il n'a pas eu, à mon sens, suffisamment de résultats jusqu'ici pour pouvoir s'imposer comme ayant réussi son opération de reconquête. Moi, je pense que le PPE peut parfaitement bien s'organiser. Et puis, ils ont un grand savoir-faire politique. Qu'est-ce qu'il a, Macron? Son parti, il n'est même pas encore vraiment en ordre. Il n'a pas trop de militants sur le terrain. Il a assez peu d'élus locaux.
Division, aurait dit un ancien leader soviétique.
C'est un peu ce que je pense, si vous voulez. Moi, je pense qu'il est dans une position qui n'est pas aussi solide et facile pour lui. Et puis, en plus, je trouve ça curieux de prendre le vocabulaire de progressiste. Je ne suis pas sûre que ce soit le terme démocrate. Oui, défendre la démocratie, les valeurs de la démocratie. Ça, je pense que ce serait... Parce qu'on peut penser, effectivement, que par certains côtés, cette démocratie peut se trouver fragilisée. Alors ça, oui, je trouve que parler de progressiste, pour moi, ça me semble pas une très bonne idée. Mais bon.
Guillaume Closa, Béatrice Gibelin l'évoquait à l'instant, et vous aussi, vous l'avez évoqué. Est-ce que le poids des clivages traditionnels, et notamment la composition du PPE, c'est le groupe Parti Populaire Européen, c'est les partis de droite au Parlement européen, pour le dire, de droite démocrate, pour le dire clairement, même si le parti de Viktor Orban en fait partie, est-ce que ces clivages traditionnels, ce poids de l'organisation fait que ça stabilise un petit peu l'institution européenne?
Le projet européen, en fait, a été pensé avec deux grandes familles qui étaient les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens depuis le début. Et donc c'est cette double dynamique avec un dialogue avec les syndicats et un consensus pour une démocratie sociale démocrate libérale, je sais pas comment l'appeler, qui a fait avancer l'Europe jusqu'à présent. Alors l'Europe a besoin d'une dynamique, qu'il y ait une troisième force qui soit incarnée par Emmanuel Macron. Pourquoi pas? Moi, je trouve que du sang neuf, mais il faut plusieurs forces qui puissent la faire avancer. Et secondo, je crois que le Parti Populaire Européen, aujourd'hui, finalement, parce qu'on a voté contre Orban, et le Parlement européen dit que a demandé finalement à la Commission de mettre en œuvre l'article 7, c'est la preuve qu'ils sont prêts à la cession. C'est un avertissement à Orban. Soit tu te remets dans le rang, soit on te sort. Et finalement, sortir 12 députés sur 220 ou 230...
C'est pas si grave.
C'est pas vraiment un problème. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'ils sont déjà en train de discuter avec les premiers ministres néerlandais et danois pour les rallier au PPE, alors qu'ils sont à la LDE. Donc ils sont en train, comme Béatrice le disait, d'utiliser tout leur savoir-faire politique pour, au contraire, élargir leur groupe.
– Alors, Béatrice Gibelin, je vous pose la question à vous, à la spécialiste de l'extrême droite que vous êtes. Est-ce que, du coup, là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est pas le fait que les extrêmes droites européennes sont en train de se heurter à une espèce de plafond de verre ?–
Effectivement, c'est une question, j'allais dire, heureusement, d'une certaine façon, qu'il y a encore suffisamment de démocrates au sein de l'Union européenne pour dire à ça, non. On s'était attendu aux présidentielles autrichiennes l'année dernière que ça bascule et qu'on puisse élire président de l'Autriche, quelqu'un qui était issu du FPO. Et puis, de justesse, ça ne s'est pas passé. On imaginait aussi au moment du vote des législatives du Pays-Bas que le fameux parti de Geert Wilders pourrait sans doute arriver en tête. Non, pas évidemment. Bon.
En Suède dimanche.
Bon, ils ont quand même continué à progresser, parce qu'ils ont quand même progressé assez vite. À chaque fois qu'ils se présentent à des élections, ça double. Bon, donc c'est quand même quelque chose qui est important.
Très, très intéressant. Donc le premier ministre autrichien, qui s'est allié avec des extrémistes, a voté pour la sortie d'Orban.
Oui.
Et en fait, c'est aussi un signal interne pour dire à son parti extrême, maintenant c'est moi le
patron.
Attention, c'est moi le patron.
Mais je pense que, si vous voulez, on a une droite qui, dans une configuration d'élection à la proportionnelle, est obligé, enfin se sent obligé de s'associer avec l'extrême droite pour avoir une majorité et fonctionner. Je veux dire, en Autriche, ça s'est déjà passé dans les années 2000. Tout le monde avait hurlé en disant « Oh là là, mais c'est affreux, on va les ostraciser ». Et puis, il s'est rien passé du tout. Et il y a une forme de banalisation. C'est en Finlande, c'est au Danemark. Voilà, les choses se sont aussi passées. Pour moi, je pense que 20-25%, c'est effectivement ce qui...
L'étiage maximum.
Je laisse, peut-être que je suis optimiste, et c'est peut-être ce que j'espère. Mais ce ne sont pas non plus de remarquables, j'allais dire, personnalités politiques et sur des programmes qui sont quand même extrêmement limités. Alors, et je maintiens que le Brexit fait réfléchir.
Et Steve Bannon, le leader de la droite radicale américaine, arrive en Europe en espérant fédérer tous ces mouvements populistes. Est-ce qu'il peut vraiment réussir à le faire, selon vous, Guillaume Clossat, vous avez écrit là-dessus?
Je crois d'abord qu'il s'occupe de ses propres affaires. C'est quand même étonnant que quelqu'un de nationaliste vienne, un nationaliste américain vienne en Europe pour essayer de démanteler l'Europe et nous faire la leçon en disant il faut revenir finalement à l'Europe des années 30, parce que c'est ça qui dit. Alors, moi je pense qu'il va s'affronter à un mur, et je pense que le seul fait qu'il vienne, en fait, a généré la réaction du PPE. C'est-à-dire que le PPE a dit « Ok, Orban, tu veux t'associer à Salvini, tu travailles avec Bannon, tu fais tes affaires, mais en dehors de chez nous. » Et finalement, la venue de Bannon peut créer un sursaut salutaire.
Démocratique.
Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tous les anti-européens sont en train de s'organiser pour miner l'Union. Et puis petit à petit, moi je le sens depuis quelques semaines, les pro-européens se disent « on va pas se laisser faire, donc il faut qu'on organise la riposte ». Et le pire pour un système comme l'Europe, c'est l'indifférence. Et donc finalement, Bannon est le contre-virus malgré lui-même, et ça nous aide.
Mais je pense que Trump, d'une certaine façon, quand il dit « mais les Européens, débrouillez-vous », mais au fond, les Européens sont nos purs ennemis, enfin, il peut tenir des déclarations absolument à l'emporte-pièce, sert aussi, du coup, les Allemands commencent à se dire « oh là, mais il faut peut-être qu'on s'occupe de notre défense », ce qu'ils avaient toujours refusé de faire, par exemple.
Merci Béatrice Gibelin et Guillaume Clossat, merci à vous d'avoir participé à cette émission, elle est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur les plateformes mobiles via l'appli RFI Pure Radio rubrique magazine. Rejoignez également le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.